Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Samira Aïtou Hamou. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être là.
Je vous remercie.
Vous allez nous présenter La Reine Mimouche. Ce livre vient de paraître. C'est l'histoire inspirée librement de la vie d'une Algérienne. C'est un livre coécrit avec Geneviève Buenou. Samira Aïtou Hamou, vous présentez, vous êtes une femme qui vit aujourd'hui dans la région parisienne. Vous avez d'abord enseigné, et vous êtes née en Algérie, vous avez enseigné la broderie traditionnelle algérienne. Et depuis que vous êtes en France, vous travaillez dans le commerce, vous êtes actuellement responsable, on va le dire comme ça, dans une grande enseigne de lingerie féminine. Vous nous racontez dans La Reine Mimouche cette histoire d'une femme algérienne, cette femme algérienne n'est pas moins que votre mère.
Tout à fait.
Et c'est un hommage à votre mère en particulier, à nos mères en général. On peut le dire comme ça, peut-être. Alors, se dire que raconter la vie de la reine Mimouche, qu'est-ce qui a un jour donné le déclic à cette envie d'écrire la vie de votre mère?
Le déclic, c'est quand je commençais à fréquenter le collège et je regardais les mamans de mes camarades de classe. J'ai dit, quand même, maman n'a pas la vie qu'elle mérite. Elle mérite mieux.
Et vous étiez où à ce moment-là, vous vous souvenez de cette enfance, de cette jeunesse en Algérie?
Au collège Émir Khaled. Exactement. C'était ma première année et je remarquais les camarades de classe, leur maman venait les chercher, certaines conduisaient, certaines travaillaient. Et je rentrais à la maison, je regardais toujours, j'avais toujours le regard de tristesse de ma maman. Je dis quand même, elle a droit au bonheur.
Le bonheur, elle en manquait et elle était surtout très, très prise par la fratrie. Il y avait tout à s'occuper, les enfants, la maison, le ménage, la vaisselle, voilà, accrocher le linge.
Voilà, ma maman, on vivait à Couba, en Algérie. On est 7 frères et sœurs, 4 filles et 3 garçons. Et quand maman s'est mariée à l'âge de 16 ans, elle avait son vrai nom, c'est Yasmina. Moi, je l'appelle Minouche, le doux odeur du jasmin. Voilà. Et on était là, elle se devait s'occuper des 18 personnes.
Bien sûr,
la belle famille, il est vrai qu'elle avait de l'aide, il ne faut pas mentir. Mais j'ai remarqué que les tâches les plus ardues, les plus difficiles, lui revenaient. Ça lui arrivait même de passer toute une journée à laver le linge, à nettoyer les chiens, les endroits pour les chiens, à faire à manger. Dans les mariages, elle était là, elle s'occupait même des mariages, de faire à manger, pourquoi 300, 200 personnes à l'époque, du couscous, parce qu'on adorait, on aimait beaucoup le couscous de notre Minouche. Et le petit surnom de Minouche, c'est moi qui lui ai donné parce que j'étais la dernière, la Mazozia, comme on dit, j'étais la Benjamine, et je me dis, pourquoi l'appeler maman Yema, tout le monde l'appelait, et je voulais un petit surnom à moi, toute seule. Et personne n'avait le droit de l'appeler Minouche.
Vous étiez sa préférée un peu,
oui,
quand même.
Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai dormi avec ma maman de ma naissance jusqu'à la veille de mon mariage. Et Dieu m'est témoin. Jusqu'à la veille de mon mariage. Et on dormait dans un lit d'une place. Et ma plus grande hantise, c'est de grossir. Parce que j'ai dit, si je grossis, eh ben, je ne pourrai plus dormir avec ma Minouche.
Parce qu'il n'y aurait pas de place pour deux.
Voilà, parce que maman, elle était un petit peu ronde, voilà. Et je dis, vaut mieux que je sois maigre, mais elle, c'est sa rondeur, c'est ses bourrelets qui me donnaient du réconfort.
Voilà, elle vous donnait chaud au cœur, absolument.
Tout à fait.
Donc vous décidez, vous avez 9 ans, vous décidez de... Vous regardez votre mère et sa vie, comme vous venez de la décrire. Et vous prenez un peu plus tard le stylo, la plume, pour raconter un peu la vie de votre mère. Mais dans ce livre, je le rappelais en introduction, il est aussi coécrit avec une autre personne, une femme qui s'appelle Geneviève Buenou.
Tout à fait.
Comment d'une vie personnelle, qui était celle que vous nous décrivez, puisque c'est la vie de votre mère et de votre père, évidemment on s'y arrêtera, et de la fratrie, qu'est-ce qui a fait que cette rencontre avec Geneviève Buenou s'est associée à votre vie familiale?
Vous savez, je suis partie au salon du livre d'Argenteuil parce que ma petite fille, qui a 9 ans, Maïli, voulait rencontrer son auteur préféré qu'elle a étudié à l'école. Et je l'ai accompagnée. Il y avait pas mal de stands. et je me suis dirigée vers un stand tout particulier d'une femme que je trouvais très chaleureuse. Elle avait cette joie de vivre et elle avait des livres, et j'étais interpellée par le titre d'un livre, Safia Oran. J'ai dit Oran, l'Algérie. J'ai dit c'est bizarre qu'une Française. Et on a tout de suite sympathisé, elle me parlait. Elle est née en Algérie. Sachez que Geneviève Buneau est la nièce de monsieur Maurice Audin. Tout à fait. Voilà, la nièce de Maurice
Audin. On a commémoré sa disparition, puisqu'on va rappeler Maurice Audin était un mathématicien qui avait été enlevé pendant la guerre d'Algérie et torturé, et dont on ne sait toujours pas, à l'heure où nous parlons, où sont les restes de son corps et qui sont les responsables.
Qu'elle a bien connu. D'ailleurs, elle a écrit pas mal de livres, elle est dramaturge, des pièces de théâtre aussi. C'est un peu audacieux et de faire ça, j'ai dit, moi j'aimerais bien faire un livre de tout le manuscrit que j'ai écrit, des feuilles. Elle m'a dit, comment vous avez écrit? J'ai dit, je dormais avec ma maman et tous les soirs, sur son dos, ça ne veut pas dire à son insu, c'est sur son dos qui m'a servi de pupitre. C'est pas pareil, parce que les gens se méprennent et disent sur son dos, non, c'est pas à son insu. Si je dormais avec elle, et j'écrivais des lignes tous les soirs, des fois les après-midi, parce que maman, elle aime bien faire la sieste et tout, des petites lignes, parce que je me dis, le temps passe, mais les souvenirs doivent rester. C'était pas dans le but de faire un livre. C'est vraiment, je devais me souvenir de ces moments. Et pendant des années, j'écrivais. Et voilà, j'avais fait un manuscrit, tout ce qui est manuscrit. Quand je suis revenue en France, j'ai continué. Bon, ça a duré une écriture de 18 ans. 18 ans. Et elle me dit, pourquoi pas? Geneviève Buneau m'avait dit, pourquoi pas? J'ai donné, et je dis à mon mari, t'as rien à perdre. Donne, on sait jamais. Et elle m'a contactée, elle m'a dit, c'est bon, en revanche, on va pas écrire.
C'est trop long, 250 pages.
Parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans l'écriture. Moi, je disais souvent, oh, c'est un livre que j'ai écrit avec mon cœur. Et le cœur n'a pas d'orthographe. Elle me dit, si, ma Samira en France, il y a l'orthographe, la grammaire. Je dis, d'accord. Elle s'est occupée, mais elle a gardé les bases parce qu'elle a été séduite par l'histoire de l'Algérie, parce que c'est un hommage à l'Algérie, c'est un hommage à notre belle Kabylie, qu'il faut bien mériter aussi. Et elle aussi, c'est un hommage à la maman, c'est un sujet qui touche une maman, parce qu'on a toute une maman, son histoire. Elle est unique, chaque maman a son histoire, et c'est pour ça qu'elle est unique. Et cet élan d'amour, d'ailleurs, il lui est arrivé de lire et de commencer à pleurer, je dis, c'est pas le but. Elle me dit, non, j'ai l'impression de me reconnaître. On dirait que
l'histoire est universelle,
voilà,
quelque part.
De ma maman. Et voilà, et après on se retrouvait chaque lundi, parce que moi, on va dire, j'ai deux métiers, ma fille fait du patinage artistique, il faut s'occuper d'elle, je suis vendeuse aussi, mais j'ai trouvé toujours ce moment de détente où je me retrouve chez elle, elle me dit, beaucoup d'échanges, et c'est rare où on n'est pas d'accord. On était toujours d'accord sur tout, parce que c'est un sujet aussi qui lui tenait à cœur.
Et donc, ce livre aboutit, donc vous êtes les deux auteurs, c'est votre livre à toutes les deux, mais c'est votre histoire à vous.
Tout à fait.
La Reine Mimouche, c'est son titre de ce livre, inspiré librement de la vie d'une Algérienne, je l'ai dit. Et c'est une histoire qui, je le disais, qui peut aussi rassembler, puis vous l'avez souligné avec Geneviève Buneau, qui est co-auteur, qui ressemble à toutes, mais dans la singularité, c'est-à-dire dans la particularité de votre mère, il y a cette histoire personnelle qui entre en compte, puisque vous l'observez, vous avez vu que toutes ces années, elle a été dans ce travail quotidien que vivent et subissent les femmes, sans se plaindre.
Tout à fait. Vous savez, quand on est seul, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas, entre guillemets, d'argent, on est obligé de, quelque part, de subir. C'est ce qui a fait d'elle une grande victime. Mais elle ne se plaignait jamais. C'est cette bienveillance, cette générosité, cette joie de vivre. Parce que, quelque part, elle disait toujours, j'ai mes enfants.
Voilà. Elle s'accrochait à ses enfants.
C'est sa raison d'être, les enfants. C'est sa raison d'être. Elle donnait tout. Elle donnait tout. C'était sa vie. Faire plaisir à ses enfants, donner sans compter, écouter sans aucune impatience. Elle était toujours là. Il suffit de qu'elle nous prenne dans ses bras et tous nos ennuis s'envolent comme par enchantement. C'était magique. Une maman, c'est sacré. Je sais pas, elle avait quelque chose de particulier parce que elle avait toujours ce regard positif sur les gens. Elle écoutait, très serviable. On vient lui dire, ah, oh, je suis en galère pour la garde de mes enfants. Elle sait ce que c'est qu'être une épouse abandonnée. Elle était là. C'était notre, on va dire, c'est un mélange d'une Jeanne d'Arc, de la Kéhina. C'est un mélange de toutes ces femmes qui se sont battues pour un... Elle, c'était se battre. Elle n'a jamais renoncé à son bonheur. Elle a subi, elle a subi différentes étapes dans sa vie. Elle est passée de la soumission, de l'acceptation, après de cette reconstruction, parce que elle avait, notre père est parti du jour au lendemain.
On va revenir justement sur ça dans une deuxième partie de notre rencontre, sur effectivement son épanouissement et comment elle va justement être confrontée à cette absence, à ce départ du père. Parce qu'on n'a pas encore parlé du mari de la reine Minouche, votre père, puisque l'histoire est très personnelle, donc on peut se permettre, dans notre rencontre, évidemment, d'aller dans l'intérieur personnel, donc dans les pages de votre livre, finalement, puisque c'est une biographie de votre mère. Donc, elle se marie à 16 ans.
Tout à fait.
Elle a tout de suite des enfants, premier enfant, tout de suite, donc. Et quelques années après, on ne va pas tout raconter, mais... le père s'en va, prétextant des affaires
à
l'étranger.
Il a demandé une petite réunion familiale, voilà. Je vais partir pour 15 jours au Maroc, pour affaires. Vous savez, à l'époque, c'était une information, c'était pas un partage. La décision était prise depuis toujours, hein. C'est l'homme, c'est lui qui décide.
Il demandait pas l'avis ni à sa famille, ni à ses enfants, il allait partir.
C'était le maître, donc on ne demande pas l'autre. Je vous informe. Pour que vous preniez la succession, que vous devez gérer tout, hein. Élever ses 7 enfants et tout. Voilà.
Et donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec le mari parti.
Le mari.
15 jours, puis des mois et des mois.
Et des mois et des mois. Et ça a duré 15 ans.
Voilà. Et puis, en son absence, elle était entourée quand même, votre mère. Elle était entourée, parce qu'on parle aussi de la famille, sa sœur.
Voilà. Elle était...
Grande importance, Nora.
C'est le pilier, le réconfort. Ma tante Nora, que Dieu ait son âme, c'était la grande dame, je l'appelle la grâce qui lit l'instruction. Elle était institutrice, connue pour son franc-parler, pour autoritaire, autonome. Elle avait peur de rien. Et elle donnait cette force à ma maman. Elle disait, vas-y. Elle disait, t'es belle. Fais-toi belle, vas-y, fais ça. Il faut prendre de l'élan. Il faut prendre de l'élan. Arrête de subir. Et c'était un enchantement de la voir à la maison, parce que maman, elle rigole des fois. Elle lui dit, oh là là, va t'habiller, va te faire belle.
Alors que votre mère, elle tendait le linge, belle, elle faisait la vaisselle, elle faisait tout ça. Voilà. Elle était belle naturellement, mais elle prenait pas soin d'elle.
Elle prenait pas soin. C'est pas la dame qui va se maquiller. Mais elle lui dit, je n'ai pas le temps. Elle lui dit, pour faire la sieste, t'as le temps pour faire la sieste.
Bah avec tout ce qu'elle faisait, elle méritait aussi.
Voilà,
elle méritait aussi la sieste.
Elle vient se reposer.
On va retrouver la reine Minouche dans un instant. Je rappelle que c'est le titre de votre ouvrage. Notre invitée Samira Ayetou Hamou en parle passionnément, avec le sourire aussi, parce que c'est une grande tendresse qu'elle a avec sa chère maman, la reine Minouche. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Poursuivons notre rendez-vous littéraire ce dimanche. Je rappelle que je reçois Samira Ayetou Hamou, qui est l'auteur de La Reine Minouche, un livre inspiré librement de la vie d'une Algérienne, nous dit le sous-titre. Ce livre est paru aux éditions Tangerine Night dans la collection Mouvement d'Elle. C'est un livre coécrit avec Geneviève Bouyenneau. On l'a présenté en début d'émission, cette co-auteure qui accompagne l'écriture de ce livre. La Reine Minouche et votre mère, Samira Ayetou Hamou, Et on va parler, on va s'arrêter un instant sur votre père qui a abandonné, laissé votre mère et puis laissé vous, les enfants, la fratrie aussi, hein, il est parti. Vous étiez combien d'enfants à l'époque?
On était sept.
Sept enfants, donc en bas âge pour certains, évidemment. Donc, d'où le labeur de votre mère que vous nous avez décrit, effectivement, et puis ne pas avoir le temps de s'occuper d'elle, qui se terminait dans la première partie de notre rencontre. Et c'est aussi votre sœur qui se doute que quand votre sœur, votre tante Nora, qui va sentir que le mari qui part et qui ne reviendra pas et qu'il a sans doute une autre vie.
Tout à
et
fait.
Votre mère ne s'en doute pas à ce moment-là.
Sans douter un petit peu quand même.
Un petit peu. Mais elle n'ose pas en parler.
Elle n'ose pas en parler parce que c'était une introvertie. On n'a pas le droit d'exprimer, de s'exprimer, de parler. Tout reste de l'intérieur. Elle me disait, comme elle disait, je suis pas juste ignorante peut-être, mais pas bête. Mmh. On sait, il y a les petits détails de la vie qui fait qu'en sorte une femme sait que son mari, voilà.
J'étais quand jeune. Quand tu pars tout le matin et qui voilà, rentre tard le soir, prétextant...
Voilà, les petits détails qu'une femme amène à reconnaître que le mari n'est pas fidèle.
Voilà. Infidélité du mari, départ du mari, et puis se retrouver seule avec les enfants. Dans le livre, vous avez une belle description aussi de la Kabylie, c'est un attachement aussi que vous aviez. Ce souvenir de la Kabylie est très fort en vous.
Oui, tout à fait, parce que on partait chez la famille, ils étaient chaleureux, très accueillants, on passait de bons moments, et maman, tout le monde l'aimait là-bas, tout le monde. Je ne sais pas, dès qu'il voit rentrer, il va dire, oh, le rayon de soleil est venu, parce que quelque part, ils savent qu'elle avait un mari difficile. Très très difficile, ils avaient de la compassion et ils avaient de l'admiration pour elle, pour le courage aussi. Parce que quand on partait en Kabylie, mon père était encore là, avant qu'il parte au Maroc. Mmh. Donc c'est lui qui nous emmenait en Kabylie, j'étais contente, d'ailleurs j'étais la seule à partir. Bon, j'avais 5 ans, mais je me rappelle de tout, hein. C'est incroyable, 5-6 ans, je me rappelle de tout. J'étais la seule à être du voyage, les autres devaient rester à la maison. Et j'étais contente de retrouver ma famille, mes tantes, mes cousines, qui avaient cet accueil chaleureux, qui prenait maman, il savait qu'elle était sans famille, sous leur aile, et il savait qu'elle avait un mari très très difficile.
Elle a élevé finalement seule les enfants. Enfants qui ont été dans une réussite, il faut quand même le souligner, hein. Ça a été quand même quelque chose de remarquable. Hein. Les uns les autres, ouais. Vous avez réussi, ouais. Vous avez... Elle faisait fort aussi de la réussite sociale, on va le dire comme ça.
Tout à fait. Ça, ses enfants, comme elle dit, c'est ma réussite. Vous savez, quand on élève ses enfants toute seule, bien sûr, elle a eu des aides de la belle famille, mais c'était pas suffisant. Veiller un enfant, c'est pas du domaine de la grand-mère, elle était âgée. Soigner, parce qu'elle a joué même le médecin. Quand votre enfant tombe malade à 2h du matin, d'ailleurs, c'est ce qui ça lui a permis d'apprendre un peu la médecine par les herbes. Je me rappelle des jours où mon frère a perdu.
Ah, il y a même des recettes.
Oui, oui. Et un jour, mon grand frère, il jouait au foot, il a perdu la moitié de son orteil. Elle est venue, on n'avait rien. Elle a pris du scotch, elle a collé. Après, le médecin est venu, elle dit, ah, oh, t'as collé l'orteil de travers, mais c'est pas grave. Parce qu'on avait un médecin quand même de famille. Mon père tenait à ce qu'on soit soigné par un médecin de famille qui venait par la même occasion soigner ma grand-mère. De ce côté-là, il a fait son devoir. On avait un médecin qui venait. Et le soir, elle comptait ses enfants. Avant de dormir, vous êtes tous là, même l'après-midi, quand elle fait sa sieste, elle nous a enseigné des valeurs, le respect des grands, être à l'écoute, ne jamais... Mais elle disait, vous pouvez me répondre comme vous voulez aux adultes, mais faites de l'intérieur, parce que il est vrai que certaines pensées ne doivent pas s'exprimer en paroles.
Alors, quand à votre avis et dans votre souvenir, apparaît cette... cet épanouissement de votre mère quand, voilà, une fois le temps passé, du travail à la maison, de s'occuper des enfants, de les élever, elle a la tête haute et puis elle réapparaît comme ça dans certaine émancipation, on peut le dire comme
ça. On ne savait pas, vous savez, il y a un jour quelqu'un a dit, la femme c'est comme le thé. on ne sait pas s'il est fort tant qu'on l'a pas trempé dans de l'eau chaude. Ça a été ma maman. Elle a vu ses enfants grandir. Le fait que les enfants ont grandi, c'est une force. Vous savez, elle a toute sa vie, c'était les fondations. Elle, c'est les fondations. Et les enfants, c'est les piliers. Et elle, c'est bien le contraire. C'est les fondations et c'est l'édifice. Les enfants, c'est l'édifice. Elle a construit tout cet édifice avec force. Elle a construit des fondations solides. Si on est venu comme ça, on la remercie. Parce que quand même... je la remercie pour tous les sept. On cesse de remercier pour tout. On est des enfants qui ont. On est mariés, on a des enfants. On transmet les mêmes valeurs qu'on a reçues, basées sur l'amour inconditionnel, sur l'amour continu, les petits sourires, les câlins avec nos enfants, la compréhension, et surtout ne jamais juger. Écouter son prochain, c'était ça. Elle avait cette sagesse. Elle avait cette sagesse. Quand j'étais jeune, je lui disais, maman, un jour, on va habiter à Paris. Et on deviendra riche. Mais la richesse en Algérie n'a pas la même valeur. C'est-à-dire, comme de nos jours, la richesse, c'est manger des bananes. C'était une richesse, la viande. Elle me disait, ma fille, si Dieu veut t'enrichir, il sait très bien où tu habites. Inutile de t'inquiéter. Rizq l'Allah, c'est Dieu, va t'enrichir, mais à sa manière.
Elle avait la sagesse aussi des mots, de dire les choses. Oui. On va revenir sur votre père, si vous le voulez bien. Il est réapparu dans la vie familiale, votre père, un jour?
Il est réapparu, j'avais 17-18 ans, quelques années après, 15 ans après.
Il est réapparu, vous étiez où à ce moment-là?
Chez nous, voilà, tranquille.
Encore en Algérie? Encore en Algérie.
Et un jour, il décide de revenir, mais d'envoyer d'abord ses 4 enfants, issus d'un second mariage. Mais nous, comment le dire à notre maman? Nous, on était au courant, on a reçu un courrier, mon grand frère a reçu un courrier. Et comme mon frère, il avait cette pédagogie, mon grand frère, il a repris les rênes de la maison, c'est lui qui s'occupait de tout. Il a dit à ma maman, voilà, mon père est de retour. Et il va ramener 4 enfants de son ami, qu'on devrait s'occuper de pour quelques séjours et tout, voilà. Il va s'installer en Algérie. Et ma mère le regardait. Je lui ai dit, mais c'est incroyable, mon fils. Mais je sais très bien que c'est ses enfants.
Elle le savait. Là encore, il était dans le mensonge. Il était,
Parce que ma maman, malheureusement, comme elle prenait tout sur elle, elle faisait souvent. Elle a fait une fois dans sa vie une dépression parce que c'était la goutte de trop. Parce qu'on avait le trop. C'est la femme qui est dans la bouche et cousue. On n'avait pas le droit. Toujours courber les chines. On n'avait pas le droit à la parole. Mmh. Voilà, c'est comme l'époque, celui qui ouvre sa bouche, il perd ses dents. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et après, mon frère l'a regardé. On était soulagés quelque part qu'elle sache que, effectivement, mon père était marié, qu'il avait 4 enfants.
Et elle les a revus?
Non. Non. On a revu un demi-frère, sachant que les autres, j'ai ma demi-sœur qui vit en Algérie, donc elle a épousé la famille, donc on la voit. Mes deux demi-frères vivent en Allemagne et ma demi-sœur vit, on est en Corse. Donc c'est pour les voir. Mes demi-frères, on a eu l'occasion de les voir en Algérie quand ils partaient. Du vivant de mon père avant qu'il décède. Vous savez, la vie est dure, hein. Mes propres frères qui habitent en France, on a du mal à se voir. Mais les pensées sont là, l'amour est là.
Bien sûr.
Sauf que maman, je l'appelle tous les jours.
On va s'arrêter longuement sur maman, qui est toujours là, effectivement.
Toujours là.
Elle habite en région parisienne, vous l'appelez tous les jours, et plus que ça, vous allez la voir. Toute la fratrie, il y a un rendez-vous comme ça, comme dans beaucoup de familles.
Non, maman, elle se fatigue, parce que quand même, on est 7 frères et sœurs.
Tout d'un coup, ça fait beaucoup.
Elle a 24 petits-enfants. Elle me dit, maman, dans sa sagesse, elle me dit, ma fille, pourquoi, à ton avis, j'ai mis au monde, je voulais 7 enfants. Et si c'était à refaire, j'en rajouterais 7. Déjà, ça te préserve de la solitude, de la vieillesse. Tu connaîtras jamais la solitude. Et celui qui t'oubliera, il y aura toujours l'autre qui va se rappeler de toi. Donc la solitude. Donc, on nous réunit par tranche, par chacun son tour, parce qu'on a le droit à un déjeuner et on prend aussi à la maison. Voilà, nous prépare les petites. Vous savez, une omelette préparée par une maman, elle a un goût universel. Une omelette, j'en prépare à la maison, mais sa main est magique. La petite touche, comme je dis à mes enfants, les petites touches magiques, on met des épices magiques. La touche de la maman fait en sorte que cette nourriture, elle a un goût unique au monde.
Et elle a continué sa vie seule en vous élevant et elle prenait du temps pour elle, votre mère, quand elle était beaucoup plus jeune,
par la suite, justement.
Je reviens à Nora qui lui disait d'être belle.
Oui, après.
Elle a décidé de...
Oui, parce que comment elle...
Elle n'a pas refait sa vie.
Oh non, refaire sa vie avec cet enfant, refaire sa vie. Elle n'avait pas dans cet état d'esprit, c'est pas la femme, c'est une honte, refaire sa vie. Mon Dieu.
Oh, ça existait en Algérie, dans nos sociétés, ça existait.
À l'époque, ma maman, mes enfants, qu'elle comptait, mes enfants, c'est le pilier, ma raison d'être. Jamais je. Elle me disait, je me suis mariée une fois. Le mariage, comme il dit, c'est la loterie. Ou on gagne ou on perd. J'ai perdu et je ne suis pas prêt de refaire.
Elle avait peur de faire une deuxième fois.
Des fois, on la taquine, elle dit, maman, pourquoi? Elle me dit, pourquoi? Si j'avais un mari, je serais pressée de rentrer chez moi pour lui faire à manger. Mais là, je suis libre. Oh, j'ai la tranquillité.
Elle se sent tranquille. Mais elle le dit maintenant, mais quand elle était beaucoup plus jeune, elle avait ce sentiment d'être libre, d'être émancipée quelque part. Ou
beaucoup
voilà,
plus tard.
Elle était beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Vous savez, il y a bien sûr cette solitude, cette tristesse en solo, cette souffrance en solo. J'aurais aimé avoir un mari parce qu'elle a eu qu'un seul rôle dans sa vie, celle de maman. Elle n'a jamais été une épouse, elle n'a jamais été une femme, elle n'a jamais été que maman. Et c'est un rôle qu'elle accomplissait à merveille. Et aujourd'hui, j'ai dit, quand elle est tombée malade, mon père l'a envoyée à Paris, elle a fait une opération. Et quand elle est revenue, elle était rayonnante. Elle était maquillée, sa petite coupe, et moi je l'appelle notre petite Irène, papasse algérienne. Elle était belle, elle sentait bon, elle était merveilleuse.
Et vous arrivez en France, en quelle année, rappelez-nous?
Moi-même.
Vous-même ou la famille, votre mère et les frères et sœurs?
Maman est venue beaucoup plus tard parce qu'elle a été expulsée, donc elle n'avait pas le choix. Il lui fallait un toit, et on a fait le nécessaire pour la ramener en France. Moi, je suis venue en 93, mes frères beaucoup plus, certains de mes frères beaucoup plus tôt, mes sœurs plus tard, et maman, il y a 9 ou 10 ans, même pas 10 ans.
Elle s'est habituée à la France?
Oh là, elle aime beaucoup l'Algérie. Elle me dit, l'Algérie, c'est son pays, c'est ses souvenirs. On s'y attache, hein. L'Algérie, c'est la destination du futur, hein. Elle s'en lasse jamais. D'ailleurs, aussi incroyable ça puisse paraître, en Algérie, elle est là, elle a la pêche, elle bouge et tout. Elle a du mal un peu avec le climat français parce qu'il y a beaucoup d'humidité et tout. Mais la France, elle aime pour ses belles choses parce qu'il y a ses enfants.
Voilà. Allez, on va faire connaissance de la reine Minouche, votre mère, dans un instant, pour la dernière partie de notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Samira Aïtouhamou, qui nous présente la reine Minouche, qui est un hommage à sa mère, qu'on va découvrir le titre de son livre. Il est inspiré librement de la vie d'une Algérienne. Ce livre vient de paraître aux éditions Tangerine Night dans la collection Mouvement d'elle. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Samira Aïtouhamou est l'invitée de notre rencontre littéraire ce dimanche. Je rappelle le titre de son livre, La Reine Minouche, inspiré librement de la vie d'une Algérienne, c'est en sous-titre. Ce livre est paru aux éditions Tangerine Night dans la collection Mouvement d'elle. La Reine Minouche, votre mère, quel âge elle a aujourd'hui,
Minouche? 79 ans.
79 ans. Et elle se porte bien?
Alhamdoulilah pour lui.
Alhamdoulilah, comme vous dites.
Voilà. Il suffit qu'elle entende la voix de ses enfants, elle se sent bien.
Elle se sent bien? Elle ne lit pas, vous lui avez lu votre livre quand
oui,
il est paru, Samira.
Oui, je lis le livre, les meilleurs passages. Parce qu'il y a un passage où tous les soirs, je me permets, est-ce que je peux le... Il y a un petit passage...
Eh bien, avec grand plaisir, vous le lisez, et qui est l'écho, justement, de la présentation de votre vie familiale. Vous nous en lisez un extrait en direct. Samira Aïto Hamou, la reine Minouche.
Minouche aimait nous faire plaisir, l'éclat de nos rires l'enchantait, à sa façon de nous regarder. Il était clair qu'il y avait du bonheur à donner qu'à recevoir. Si je peinais à trouver le sommeil, elle commençait. Il était une fois une femme très fatiguée qui avait 7 enfants. Chaque soir, la Benjamine lui réclamait un compte. Aussitôt retentissaient des ronflements. J'avais beau la secouer en tous sens, impossible de la réveiller.
Ah, c'était vous qui réclamiez tout le temps ?
Tous les
voilà,
comptes.
Tous les comptes et tout, parce qu'elle aimait vous les raconter. Vous l'avez rappelé, elle vit aujourd'hui en région parisienne, elle retrouve ses enfants et ses petits-enfants, voilà, chez elle. Et dans son entourage, elle a des voisines à qui elle a raconté sa vie ou qui connaissent son histoire ou pas?
À Cuba?
Non, ici, dans la région parisienne, non. C'est son histoire à elle qu'elle garde en elle.
Elle est discrète.
Elle est discrète.
Elle est timide, elle est discrète. Et quand on a fait le salon du livre d'Argenteuil, elle était là. Ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit une personne de la couverture, elle était là. Et le soir, aussi incroyable que ce puisse paraître, le soir, quand elle vient passer la nuit chez moi, elle dort dans un lit d'une place. Et elle dort au bord et ma fille, elle vient, elle dit, mais tu vas tomber. Je dis, je suis jamais tombée. Elle me dit, pourquoi tu restes au bord? Mais je sais, il y aura toujours ta mère qui se joindra à moi. Et le soir, comme d'habitude, je mets derrière elle. Je ne sais pas, aussi incroyable ça puisse être. Elle lit d'une place, moi et ma maman, à Dieu seul sait, on est assez ronde. Hein. Elle me disait, waouh, j'aimerais bien refaire ce que j'ai fait aujourd'hui. Les gens m'ont dit que j'étais belle. C'est incroyable. J'ai dit, maman, la beauté n'est pas que physique, elle vient de l'intérieur. Et ça a été, mon objectif a été atteint parce que c'était une promesse que je lui ai faite. La renaissance, c'était une renaissance. Elle ne se rendait pas compte de tous ses sacrifices. C'est un peu émouvant, excusez-moi.
Oh oui, je vous en prie, bien sûr. Oui.
Et c'est bien souvent, vous savez, comme disait notre cher Neil Anderson, il y a des reines minouches sur toutes les latitudes.
Bien sûr.
Sur tous les horizons.
Votre histoire, vous la racontez avec émotion, Samira Aïto Hamou, mais... Elle est votre histoire personnelle, mais elle est une histoire universelle. Il y en a beaucoup des reines minouches.
Vous savez, quelque part, notre vie est un livre écrit en avance. Oui. Moi, je l'ai partagé, je l'ai fait partager. Parce que je me dis, on a écrit un article sur Minouche dans le Liberté en Algérie. Il disait, je salue à l'Ebdelessi, il disait, vous avez raison d'élever au rang de reine votre maman, parce que certaines mamans le méritent, parce que c'est un hymne au mère courage.
Séchez vos larmes, Samira Hamou, et vous avez raison d'avoir tant d'émotions ce dimanche quand vous parlez de votre mère. C'est si important d'évoquer ces femmes qui portent et la fratrie et la vie en général dans notre société, dans nos sociétés. Vous l'avez dit, sur toutes les latitudes, les femmes portent haut et fort le socle de la famille. Vous m'avez dit, en préparant notre rencontre, que lorsque vous faites des salons, vous voyez des femmes, et justement à Argenteuil, dans cette région où, parisienne où vous habitez, lorsque des femmes viennent vous voir, elles sont touchées par... quand vous faites une conférence, elles sont touchées par votre histoire, parce que ça leur rappelle la leur.
Vous savez que quand on, à Argenteuil, on donnait des conférences, et à la fin... C'est émouvant parce que je me rappelle d'une femme qui est venue, m'a pris dans ses bras, elle pleurait, je dis waouh, je suis désolée, elle m'a dit non, vous m'avez fait du bien parce que j'ai l'impression que vous avez raconté ma vie. Et j'ai dit, je crois que c'est le but, vous savez pourquoi? Parce que c'est une histoire qui se finit bien, donc c'est donner de l'espoir, c'est un message d'espoir. Certes, maman n'aura jamais le monopole de la souffrance. Jamais. Il y a des milliers de femmes qui ont souffert. C'était le lot de vie de certaines de femmes à l'époque. Mais quand elles liront ce livre, elles se reconnaîtront. Et quand maman a eu une fin positive et heureuse, ça donne de l'espoir qu'il y a au-delà une vie meilleure. Parce que maman, elle s'est battue toute sa vie pour son bonheur et celui de ses enfants avant tout. Où elle me dit, vous mangez, ça y est, c'est mon bonheur. Vous êtes en bonne santé, c'est mon bonheur. Vous avoir tous. Le bonheur, chacun exprime le bonheur à sa manière. Certains, c'est dans le sourire de ses enfants. Certains, c'est dans le regard. Certains, c'est dans l'argent. Chacun, chaque être humain, décrit le bonheur à sa manière.
Et vos enfants ont lu votre livre ?
Tout à fait. Même la petite. Et d'ailleurs, la petite, aussi incroyable que ça puisse paraître, Maïli, elle a 9 ans et la grande, elle a Rime, elle a 23 ans. Elle me dit, oh maman, c'est dur. J'ai dit, pourquoi c'est dur? Être à la hauteur, de faire ce que tu as fait à m'aimer, c'est incroyable. J'ai dit, je vous demande rien. Je vous demande juste de l'amour. Aimer son prochain, avoir un regard positif sur toutes les mamans parce qu'elles ont donné. Elles ont donné, elles ont beaucoup. Quand on a écrit ce livre, c'est pas pour revendiquer un droit ou quoi que ce soit, ou plaider une cause. C'est juste une reconnaissance. C'est un hommage. Je voulais que maman soit là. Pas pour qu'elle soit fière de moi, je sais qu'elle est fière de nous tous, tous les 7, chaque jour que Dieu fait. Elle m'a dit, vous avez réussi, vous êtes en bonne santé. Et elle me disait, ma fille, aujourd'hui, si je meurs, je vais mourir tranquille. Parce que vous êtes tous installés, vous êtes tous mariés, vous êtes stables. Bien sûr, vous aurez des problèmes, ça fait partie
de la vie.
Mais vous n'aurez jamais... Vous, c'est déjà un avantage dans votre malheur, c'est que vous vivez en France. Donc, c'est déjà une chance.
Quel est le regard qu'elle porte aujourd'hui sur l'Algérie? Votre mère, elle y retourne pas?
Elle y va tout le temps. L'Algérie, c'est... Maman, elle est dopée à l'Algérie. Elle est tout le temps en Algérie parce qu'elle retrouve ses racines. On n'oublie jamais le passé. Qu'elle a eu quand même des moments de bonheur. Elle n'a pas eu que le malheur. Parce que quand la belle famille, elle a pris de l'âge, ma grand-mère, qui est connue pour son franc-parler, bien souvent, les personnes âgées... Elles sont méchantes, c'est par ignorance, c'est pas parce qu'elles veulent être méchantes, c'est parce que c'est la belle-mère, il faut qu'elle soit comme ça envers la bru. Et avec des années, elle s'est adoucie, elle a appris, maman, tout le monde, elle les a tous soignés. De nos jours, ils sont tous décédés. Elle me dit, je leur ai fait du bien, mais celui qui me le rendra, c'est là-haut. Donner sans compter, il faut toujours donner sans compter dans la vie.
Et elle retourne au village quand elle va en Algérie?
Toujours. Elle retourne dans son quartier parce qu'il la demande. Parce que quand j'ai fait la photo sur Facebook, Khaltil Yasmine, comme elle est belle, il l'appelle Khaltil Yasmine parce que c'est la maman de tout le monde. Les gens m'ont dit sur Facebook, arrête de t'approprier Khaltil Yasmine parce qu'elle
appartenait aux autres aussi.
La porte était ouverte pour les mamans. Parce qu'on avait eu beaucoup d'amis, dont les maris aussi, les ont abandonnés. Et elles galéraient pour garder leurs enfants du bas âge. Et maman leur disait, venez à la maison, il y a de la place. Et des fois, elles passent la nuit. Et ces enfants dont maman s'est occupée, elles sont mariées maintenant, elles ont des enfants. Et elles se souviennent de la brioche de Khaltil Yasmine, parce qu'elle les nourrissait. La brioche et les lentilles aux galettes, avec la galette, ça n'a pas de prix.
Et aujourd'hui, c'est ce que vous mangez quand vous allez chez elle?
Ah non, vous savez...
Qu'est-ce qu'elle vous prépare alors?
Elle, maman, non, rit. Maman, vous pouvez tout lui parler de la nourriture, mais ne l'employez jamais le mot « l'ades » et « loubia », parce que ça lui rappelle trop les durs moments. Elle me dit non, l'ades, loubia, le batata, ça me rappelle trop les durs moments. Ah non. Et de nos jours, quand je lui dis maman, Elle est gourmande. Elle aime bien la bonne cuisine. Et quand elle vient, je lui dis, maman, fais à ta santé. Fais attention à ta santé, hein. Est-ce que tu veux un yaourt ou un fruit? Elle me dit en kabyle, Esmir Fhar, Tchitchar Senesin. Moi, je préfère les manger les deux.
Voilà.
Et elle me dit toujours, ma fille, sache une chose. En kabyle, et je vous traduirai, Minifi ilhem en tomzé, voilà pomrar. Je préfère toutes ces souffrances de galère de jeunesse. Parce que dans la vieillesse, on n'a pas cette capacité de surmonter tout ça.
Ben oui, bien sûr.
Souffrez dans votre jeunesse. Et nous, c'était notre moment difficile. Ils disent bien que le sourire et le rire est la bouée de sauvetage des naufragés de la vie. Et on rit de nos malheurs. Des fois, on en rit des moments de tristesse. Maintenant, on en rit. J'ai dit, maman, tu te rappelles quand il faisait froid et mon frère venait, il se couvrait trois couches parce qu'on n'avait pas le radiateur pour et nous embrasser parce qu'il n'était pas sûr d'être vivant le lendemain parce qu'il faisait moins deux. Et c'était des moments où on mettait les vêtements sur les radiateurs et ils brûlaient. Mais on était heureux. On s'en foutait des valeurs du matériel à la mesure où elle était là. Le moment du ramadan, la table dressée, 15 personnes, elle nous préparait des bonnes choses. Et je faisais mes études de broderie. Après, elle dit, laissez-la, la mazozie, elle est fatiguée. Elle disait, mais sœur, nous aussi, on a fait le ramadan. Mais c'est pas pareil, elle est maigre. Un jour, le vent va l'emporter. Et c'est vrai que j'étais trop maigre. C'était la mazozie, j'étais collée à elle. Et c'est triste de dire ça, parce qu'un jour, quand j'ai écrit...
Et vos frères et sœurs, alors, justement, quand vous avez écrit ce livre...
C'était mitigé, il y a la pudeur. Et ma sœur, elle me dit, c'est incroyable. Je n'ai jamais su que ma mère a souffert à ce point. J'ai dit, ma chère sœur, c'est parce que je dormais avec elle. Et c'est moi qui... Aussi jeune, toute petite, j'ai toujours appris à regarder au-delà des apparences. C'est incroyable, je ne sais pas. Mais maintenant, la tristesse, je la ressens tout de suite, sans le savoir. Je sais que quand un collègue n'a pas de maman, par exemple, c'est incroyable. On a toujours ce regard triste. Et quand les gens sont tristes, même je leur fais un câlin. Hier, une dame, on a fait une séance dédicace. Elle était triste. Elle m'a dit, j'ai pas d'argent pour acheter le livre. J'ai dit, mais c'est pas grave. Je vais vous raconter l'histoire. Elle m'a dit, ça fait du bien. J'ai dit, rien que sur contact. Avec vous, ça me fait aussi du bien, tout simplement.
Merci Samira Itohamou, merci
à vous.
De ce partage de votre mère, puisque pour tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM, ben écoutez,
je remercie on a les auditeurs et auditrices d'être
histoire.
À l'écoute aussi.
Voilà.
Et je remercie à vous, merci à vous de me recevoir dans ce beau studio.
C'est un plaisir. Samira Itohamou, elle était l'invitée de ce dimanche littéraire. La Reine Minouche, c'est le titre de son livre, inspiré librement de la vie d'une Algérienne, d'une grande dame, la Reine Minouche. Ce livre vient de paraître aux éditions Tangerine Night dans la collection Mouvement d'aile. Au revoir, à très bientôt, de belles rencontres encore.
Merci, un petit coucou à une reine particulière, bien sûr, Minouche, et une certaine Doudouche.
Et ben voilà,
elle se reconnaîtra, c'est aussi ma reine.
Voilà. On se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de La Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Soyez à l'écoute de Beurre FM.
Voix au chapitre sur Beurre FM.